Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Clément Salazar, Juliette Gadeau. Réalisée par Charlotte Roux et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Nous allons nous intéresser cette semaine à la Russie et à ce que nombre d'experts et observateurs nous annoncent depuis quelques mois, voire depuis quelques années maintenant, mais qui semble s'imposer de plus en plus, le retour de la guerre froide. Cette idée, cette hypothèse résiste-t-elle à la réalité? Les grilles de lecture utilisées pour comprendre le monde depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la dislocation de l'espace soviétique sont-elles encore, à nouveau, opérantes pour décrypter le monde de 2016? On parlera de course à l'armement, de guerre périphérique, de propagande, de guerre de l'information, mais pour commencer, on va s'intéresser à la diplomatie russe. La diplomatie russe, on aurait dû la voir se déployer sous nos yeux cette semaine, puisque Vladimir Poutine devait venir à Paris. Finalement, il ne viendra pas.
Monsieur Poutine, président de la Russie, devait venir à Paris prochainement pour un certain nombre d'inaugurations et de cérémonies. Je concevais cette visite uniquement si elle permettait de parler de la Syrie. Et uniquement de la Syrie. Il a préféré reporter cette visite, ce qui n'empêchera pas d'autres occasions de discussion, mais il ne viendra pas à Paris.
Rien n'a changé dans nos relations avec la France, avec le peuple français et surtout avec les investisseurs français. C'est mon porte-parole qui m'a dit que c'était annulé pour que notre position ait l'air ferme. Mais nous n'avons pas annulé la visite. Les Français ont simplement fait comprendre que ce n'était pas le meilleur moment pour l'inauguration de notre centre culturel, pour discuter de tous ces sujets humanitaires, qu'il faudrait reporter un peu ces événements. Nous avons dit « d'accord, comme vous voulez, nous n'avons pas imposé notre présence ».
Poutine, donc, qui finalement ne viendra pas inaugurer la nouvelle cathédrale orthodoxe russe qu'ébranlit à quelques encablures de la tour Eiffel après les tergiversations du président français qui avait déclaré dans les médias qu'il n'était pas sûr de vouloir, de devoir recevoir son homologue russe tant il n'y avait rien à attendre sur le dossier syrien. Et à Moscou a décidé d'annuler sa venue. Cette décision a poussé nos confrères et camarades du Monde, Marc Sémo et Isabelle Mandreau, Marc Sémo qu'on connaît bien ici, à titrer la semaine dernière sur une nouvelle guerre froide entre la France et la Russie. Quelques jours plus tôt, c'était le Figaro qui, sous la plume d'Isabelle Lasserre, par ailleurs productrice à France Culture, qu'on connaît également, qui titrait sur la nouvelle guerre froide entre la Russie et les États-Unis. On ne compte plus les articles, les communiqués, les rapports et autres ouvrages sur le retour de la guerre froide. Journalistes, experts, universitaires, responsables politiques, tous semblent s'accorder sur cette idée. Alors on va se demander ce qu'elle signifie concrètement dans le champ de la diplomatie. Quels sont les points communs, peut-être les différences, entre la diplomatie actuelle et celle qui s'est déployée de 47 à 91, entre le camp soviétique et celui des États-Unis? La diplomatie à la Poutine, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a à voir aussi avec celle conduite par Khrouchtchev après la mort de Staline, par Léonid Brejnev ou plus tard par Gorbatchev, l'homme de la détente? Et puis quel est l'effet de cette diplomatie du marteau, appelons-la comme ça, sur les autres diplomaties? Voilà les questions qui seront les nôtres ce matin avec nos deux invités ici en plateau. Céline Maranger, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. À vos côtés, Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, historien des relations internationales et directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors, on va commencer avec cette actualité. On pensait que ce serait la venue de Vladimir Poutine. Il se trouve que non, c'est la non-venue de Vladimir Poutine. Mais d'une certaine manière, c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer d'analyser. Beaucoup de voix se sont élevées, en tout cas un certain nombre se sont élevées pour regretter que François Hollande se montre aussi réservé sur la visite de Vladimir Poutine. D'autres, au contraire, ont trouvé que la manœuvre était relativement judicieuse, considérant que le président français s'exposait à une image absolument déplorable, c'est-à-dire celle d'un président russe incarnant un certain conservatisme nationaliste, portant les valeurs du christianisme orthodoxe, inaugurant ce centre culturel et cette église orthodoxe dans la capitale d'un État laïque, alors même que sur le dossier syrien, il n'y avait pas grand chose, voire rien du tout à attendre en termes d'avancée sur un éventuel cessez-le-feu du côté d'Alep. Quel regard vous portez l'un et l'autre sur la non-venue de Poutine et sur la manière dont, pour le coup, le président français a géré cette affaire? Thomas Gomard.
Bon, moi je crois qu'il faut remettre cet épisode dans le cours très riche des relations franco-russes. Ce type d'incident s'est déjà passé auparavant. Il y a plusieurs exemples plus ou moins récents. Et donc, je dirais, dans la chronique diplomatique, c'est un incident. Il ne faut pas, à mon avis, l'exagérer. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a deux lectures aujourd'hui très différentes de la situation en Syrie entre Paris et Moscou. Et ce qui est également vrai, c'est qu'on a une position centrale de Moscou sur le dossier syrien et une position de plus en plus périphérique de Paris sur le dossier syrien. Pour la Russie, ce qui se passe en Syrie est au fond une manière d'essayer de remodeler le système international et également de défendre des intérêts comme puissance régionale qui réinvestit le champ au Moyen-Orient, ce qui est rendu possible en particulier par le retrait américain. Donc si vous voulez, par rapport aux enjeux, je pense qu'il ne faut pas surinterpréter cette non-venue. Les dialogues, les échanges continuent entre Paris et Moscou. Il y a différents canaux qui sont utilisés. Maintenant, sur la décision du président François Hollande, je crois qu'il faut noter la capacité de changement de pied de François Hollande, pour le meilleur et pour le pire, je dirais. C'est-à-dire que on a un président qui, après le Bataclan, les attentats du Bataclan, appelait à une grande et unique coalition, notamment avec la Russie, et qui, peu plus de 6 mois plus tard, au fond, ne veut plus parler ou estime qu'il est très difficile de parler avec Vladimir Poutine. On a un président qui a su aussi annuler la vente de systèmes d'armes des Mistral, alors même que tout le monde disait que cette vente ne pouvait pas être annulée. Au fond, c'est un président qui montre qu'il conserve un pouvoir de décision personnelle, alors même qu'il est très affaibli sur le plan intérieur. Donc je pense qu'il ne faut pas le surinterpréter. Et deux derniers éléments, si vous permettez, les voix et les critiques que vous avez mentionnées, il y a deux courants au fond. Il y a le courant pour lequel il ne faut pas diaboliser Poutine, parce qu'au fond, on doit faire de la diplomatie avec tout le monde. Et donc, plus il y a de contact, mieux c'est, forcément en période de crise. Puis il y a un autre courant qui confond, je dirais, russophilie et poutinophilie. C'est-à-dire qu'il y a aussi un courant qui est fondamentalement très favorable aux thèses de Poutine dans le débat intérieur politique français.
Céline Maranger, votre regard sur cette non-venue, sur la gestion diplomatique de François Hollande. Tout à l'heure, Thomas Gomard disait qu'il y a deux lectures différentes. C'est intéressant de voir aussi qu'il y a deux lectures de l'événement qui sont totalement différentes ici et en Russie. Parce qu'en Russie, cette non-venue, cette annulation de la visite, en fait, elle apparaît en réalité comme un échec diplomatique de Vladimir Poutine. En tout cas, c'est comme ça que c'est analysé dans les médias russes. Céline Maranger, votre regard sur cette affaire.
Je crois que ça n'est pas tout à fait exact. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir dans les médias russes, l'annulation de la visite du président Poutine, elle n'est pas présentée sous ce jour-là. Je pense que d'abord on a eu la déclaration du porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, qui lui a plutôt temporisé, c'est-à-dire qu'il a présenté l'affaire comme un report temporaire, en fait, comme en déclarant que finalement la visite pourrait avoir lieu à un moment plus opportun si le président Hollande le désirait. Et puis, c'est vrai qu'on a eu d'autres déclarations beaucoup plus intempestives, notamment à la télévision, par exemple sur la première chaîne de télévision la plus regardée et la mieux diffusée en Russie, il y a eu un reportage sur cet événement et l'affaire était présentée sous un tout autre jour. Par exemple, les journalistes expliquaient que cette annulation était le résultat des tergiversations françaises, que ils insinuaient aussi que les Américains auraient dicté l'attitude à adopter aux autorités françaises. Et puis, ils qualifiaient également ce revirement d'enfantillage, c'est-à-dire qu'il mettait en avant l'idée que Paris aurait fait annuler cette visite en réponse au veto russe à l'ONU la semaine précédente.
Sur la première chaîne, il était aussi mentionné que Vladimir Poutine n'avait pas été capable de maintenir cette visite. Je parle sous le contrôle de Michel Etchalinov qui, effectivement, avait regardé justement la télévision russe le jeudi soir pour voir comment tout ça a été analysé. C'est ce qu'il disait chez nos confrères de France Inter. Sur cette idée du retour de la guerre froide, je voudrais vous entendre l'un et l'autre. Alors, il y a évidemment le conflit ukrainien qui a abouti à l'annexion de la Crimée. Il y a bien sûr ce conflit syrien dont on a parlé, dont on cesse de devenir, qu'il est devenu finalement ce nouveau terrain d'affrontement entre la Russie et les Occidentaux, et en particulier entre la Russie et ses alliés, et puis les États-Unis et ses alliés. Quels sont, selon vous, les éléments qui vont dans le sens, effectivement, d'un retour de la guerre froide, et quelles sont peut-être les limites de la comparaison, Thomas Gomain?
Bon, moi, c'est une notion que je ne partage pas. C'est-à-dire, mm-hmm. Je ne pense pas du tout qu'on soit face à un retour de la guerre froide, pour des raisons de structuration du système international et aussi pour des raisons d'équilibre des forces. Alors, sur le premier point, si vous voulez, je pense que c'est utile de rappeler que, précisément, la fin de la guerre froide commence avec la mise en place par les États-Unis d'un triangle stratégique au début des années 70, le rapprochement avec la Chine pour affaiblir l'URSS. Et donc, à ce moment-là, on est au début des années 70, sous Nixon, se met en place, au fond, une politique américaine très, très ambitieuse vis-à-vis de la Chine pour affaiblir l'URSS. 45 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est que le segment faible de ce triangle stratégique, c'est la Russie. Et qu'au fond, on est beaucoup plus dans une polarisation du système mondial à terme sur la relation sino-américaine que sur la relation américano-russe. Donc, si vous voulez, ne serait-ce qu'en termes de structure, voir un système international aujourd'hui s'organiser autour d'une bipolarité américano-russe ne correspond absolument pas à l'équilibre des forces en présence et au fait que, fondamentalement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une Russie qui est une puissance déclinante, une Chine qui est une puissance ascendante et les États-Unis qui règnent, je dirais, une puissance stagnante. Mais le fond de l'affaire, c'est que la Russie...
Stagnante, même si sur le plan de la diplomatie, elle est plutôt en retrait.
En tout cas, elle est en retrait, si vous voulez. Mais en gros, quand vous regardez dans les grandes masses, la Chine et les États-Unis produiront 35% de la richesse mondiale en 2020. La Russie, ça sera 2,5%. Donc en fait, on a un pays fondamentalement qui rétrécit et qui, à mon avis, le sent. Et qui est donc dans une phase où elle traduit son déclin par une sorte d'utilisation diplomatique, effectivement, du retrait américain en termes diplomatiques. Mais je pense qu'il faut distinguer, si vous voulez, ce qui relève de la diplomatie de ce qui relève du cadre structurel. Le deuxième point, c'est l'aspect, on dit souvent, en fait, il n'y a pas de guerre froide parce qu'il n'y a plus d'idéologie, de confrontation idéologique. Alors ça, pour le coup, moi, je pense qu'il y a une forme de nouvelle guerre froide sur le plan idéologique qui est en train de se mettre en place. Entre, en gros, un système qui pense que les régimes démocratiques sont l'évolution naturelle, l'économie de marché, etc., et un système beaucoup plus à l'Est, et sur lequel on retrouve des positions communes entre Pékin et Moscou, qui considèrent que les régimes autoritaires sont des régimes d'avenir parce que, fondamentalement, c'est eux qui peuvent conduire de la réforme. C'est eux aussi qui peuvent permettre de défendre le principe de souveraineté, qui est vraiment le point commun. Le souverainisme est vraiment aujourd'hui le point commun entre la Russie et la Chine. Donc, si vous voulez, sur l'aspect guerre froide, je pense qu'il ne faut pas se tromper et surtout bien voir que le vrai sujet, quand on parle de ça, c'est l'évolution et de la Chine et des États-Unis.
Oui, il serait complètement fou d'imaginer qu'on a basculé à nouveau dans un monde bipolaire alors que ça fait des années qu'on répète que le monde est devenu définitivement multipolaire. En tout cas, définitivement, on ne sait pas, mais multipolaire.
Céline Maranger. Bipolaire. Justement.
Apolaire. Ouais. Céline Maranger, sur cette question du retour de la guerre froide, et puis peut-être aussi en particulier sur cette question de la place de la Chine, parce que vous avez écrit, vous, une note intitulée « Le rapprochement de la Russie avec la Chine, le triomphe de la stratégie sur la tactique », donc c'est peut-être intéressant de regarder justement quelle est la place de cette Chine dans les équilibres mondiaux. Vous rappelez notamment que Poutine avait annoncé le désir de se recentrer sur l'Asie. Hein. La Chine, les États-Unis ne sont pas les seuls, ils n'ont pas le monopole du pivot asiatique. La Russie aussi, et ce recentrement, il se fait bien sûr autour de la Chine. Qu'est-ce que ce rapprochement, clairement, entre la Russie et la Chine a modifié des équilibres mondiaux? Et pourquoi vous parlez du triomphe de la stratégie sur la tactique?
D'accord. Avant peut-être de répondre plus précisément à votre question sur la Chine, je pense que je voudrais réagir par rapport à la question de la guerre froide. Je partage entièrement l'avis de Thomas Gomain à ce sujet. En même temps, je crois qu'on assiste depuis quelque temps à une escalade qui se manifeste à la fois par une surenchère verbale et par une multiplication et une intensification des démonstrations de force. Et je pense que ces actions et ces déclarations visent à intimider et elles ont de quoi inquiéter. C'est-à-dire que la Russie veut être crainte, elle veut s'affirmer comme une puissance militaire, elle veut, si vous voulez, imposer un nouveau rapport de force qui lui permettra à la fois de se mesurer aux États-Unis, ce qui est un peu l'obsession actuelle, et puis aussi de retrouver le rang et le lustre passé. Et je pense qu'il faut prendre acte des actions et des déclarations russes sans pour autant les surinterpréter, les intentions russes.
Et à quand vous faites remonter cette rhétorique anti-occidentale, disons-le comme ça ?
Pardon ?
À quand vous faites remonter la rhétorique anti-occidentale de Poutine ?
Oh, le 2007, je dirais. 2007, et ça c'est beaucoup plus marqué depuis 2002. Peut-être, et encore plus depuis l'annexion de la Crimée en mars 2014.
Alors sur la question de la Chine, et puis ensuite Thomas Gomard.
On observe un crescendo de ce point de vue-là. Juste pour terminer, je pense que ce que je voulais, pour finir sur mon idée précédente, il faut prendre acte de ces actions et de ces déclarations hostiles. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas surinterpréter les intentions russes. C'est-à-dire qu'actuellement, plusieurs politologues russes, qui vivent en Russie, pensent que le Kremlin cherche en fait à trouver un compromis avec les Occidentaux, mais qu'il veut le faire à des conditions acceptables, sans perdre la face. Et donc, il fait monter les enchères, il se montre intransigeant au niveau international pour arriver à la table des négociations avec quelque chose à offrir et sans avoir à faire trop de concessions.
Sur la question de la Chine, de sa place dans l'ordre mondial et de ce qu'elle change aux équilibres mondiaux...
Sur la question de la Chine, c'est caractéristique. C'est-à-dire qu'après l'annexion de la Crimée, le leitmotiv des autorités russes, c'était la réorientation des intérêts russes en Asie. Il pensait qu'ils pouvaient substituer, si vous voulez, tous leurs intérêts, enfin, qu'ils pouvaient développer leurs intérêts économiques en Asie et que cette réorientation pourrait se substituer d'une certaine manière aux relations économiques avec l'Europe.
Sauf que ça n'a pas vraiment été le cas. Les résultats sont pas au rendez-vous.
Et donc, d'où, je pense, aussi cette radicalisation actuelle. C'est-à-dire que, finalement, sur le plan intérieur, ils voient leur marge de manœuvre se réduire comme peau de chagrin et donc ils sont tentés d'être plus agressifs au niveau international.
Thomas Gomard.
Bon, pour revenir, si vous voulez, sur votre idée initiale de guerre froide et le fait qu'on a une diplomatie russe de plus en plus active, je pense qu'il y a deux choses à avoir à l'esprit. D'abord, les ordres de grandeur, c'est-à-dire que ne pas oublier que, en termes de dépenses militaires, on est aujourd'hui dans un système où les États-Unis représentent 600 milliards de dollars de dépenses militaires par an, la Chine un peu plus de 210 milliards et la Russie 83 milliards. Donc, ne serait-ce que ça aussi, si vous voulez, affaiblit l'idée d'une nouvelle bipolarisation autour de la Russie. En revanche...
Vous avez redites les chiffres ?
600, 210, 83.
D'accord.
La Russie se bagarre avec l'Arabie Saoudite pour être la troisième position selon les années. Ce qui est aussi un élément intéressant. Le deuxième élément, en revanche, c'est que ce qui caractérise les années Poutine... Depuis 2000, il ne faut pas oublier que Poutine arrive au pouvoir, il perd un sous-marin nucléaire. Ça, c'est août 2000, et c'est vraiment un moment fondateur de son régime. C'est-à-dire qu'il ne va avoir de cesse de reconstruire un outil militaire crédible. Il va pouvoir le faire pendant toutes les années 2000 grâce à la rente énergétique. Au fond, il va allouer une partie très importante de ses ressources à la reconstruction d'un outil militaire qui passe relativement inaperçu aux yeux des Occidentaux parce que les Occidentaux regardent ailleurs et également ne veulent voir à ce moment-là la Russie que comme, je dirais, un marché émergent et pas comme une puissance réémergente. Bon. Et aujourd'hui, à mon avis, on se trouve dans une situation où la Russie, dans un comportement que je qualifierais de mimétique par rapport aux Occidentaux, est entrée à son tour dans un cycle d'intervention extérieure. Au fond, le fil rouge du régime de Vladimir Poutine, c'est l'utilisation de la guerre limitée comme moyen de transformation du système international. La guerre est constitutive du régime de Vladimir Poutine. Deuxième guerre de Tchétchénie, où il offre une revanche à ses militaires. Guerre en Géorgie, 2008. Annexion de la Crimée, déstabilisation du Donbass, jeu sur les conflits dits gelés, et puis maintenant l'opération en Syrie, commencée en septembre 2015, et où la Russie est en train de se livrer à une véritable démonstration de force, au moment même, si vous voulez, on est plutôt dans un cycle où les interventions militaires extérieures des Occidentaux, et en particulier celles des Américains, sont sur le retrait. Et donc il y a une volonté...
D'accord, donc la Russie finalement... rentre dans une diplomatie du rapport de force, alors même que précisément les Occidentaux en sortent. On est dans des cycles finalement totalement opposés. C'est aussi ça.
Il y a l'utilisation par la Russie, très bonne utilisation par la Russie, si vous voulez, du fait que les interventions militaires occidentales n'ont pas produit les systèmes politiques attendus, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye. Et que donc, ces interventions ont produit des changements de régime, ce qui est la hantise absolue à la fois de Pékin et de Moscou, et qu'en même temps, l'usage de la force, l'outil militaire russe, maintenant, a au fond des capacités, si vous voulez, lui permettant de faire un usage de la force et d'obtenir des gains politiques. C'est le problème fondamental de la Russie, on pourrait le résumer comme ça, c'est que parmi les 5 membres du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, la Russie veut continuer à être considérée comme l'égale des États-Unis et de la Chine, alors même que c'est une vue de l'esprit pour la raison que j'ai déjà indiquée, et qu'elle bénéficie de moyens, au fond, comparables en termes militaires à ceux d'un pays comme la France. Et donc, c'est cette distorsion, si vous voulez, qui est problématique, parce qu'elle n'est pas tenable sur la durée. Et donc, il y a une volonté de la Russie aujourd'hui d'engranger le maximum de gains diplomatiques, en particulier dans la perspective de l'élection américaine.
D'accord, donc elle est aussi active sur le plan diplomatique que d'une certaine manière elle est faible sur le plan militaire. Céline Maranger, justement sur cette question du réarmement russe et la question de savoir si la Russie a les moyens de ses ambitions, on sait que la situation économique est catastrophique. Je crois que sur la seule année précédente, le rouble a perdu 40% face au dollar, donc on voit bien la crise économique et financière dans laquelle se trouve aujourd'hui Moscou. Moscou n'a pas les moyens de rivaliser aujourd'hui. Quand Thomas Gomard nous rappelle les chiffres, on voit bien, c'est quasiment un facteur 7 entre les investissements russes dans l'armée et les investissements américains. On est quasiment dans ce rapport de force.
Oui et non, parce qu'il ne faut pas forcément des moyens très sophistiqués pour produire des effets dévastateurs, et on le voit aujourd'hui en Syrie. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de nuisance et une volonté d'en découdre qui ne nécessite pas forcément des moyens extrêmement importants.
Oui, donc c'est pas utile de dépenser 600 milliards quand de toute façon, avec seulement 83, vous pouvez obtenir les résultats diplomatiques que vous avez...
Que vous souhaitez, atteindre.
Thomas Gomard.
Je nuancerai un peu votre appréciation, si vous voulez, sur la situation catastrophique de l'économie russe. Ce qu'a montré également l'économie russe, si vous voulez, c'est une économie qui, effectivement, est en récession, mais c'est une économie qui est très tributaire des prix de l'énergie. En même temps, il y a eu une gestion, à mon sens, très intelligente en termes macro, par les autorités russes, du trou d'air qu'elle traverse. Deuxième élément, c'est que c'est une économie qui fait preuve d'une forme de résilience, si vous voulez, avec un discours qui va vers un discours d'autarcie, c'est-à-dire de substitution aux importations à cause des sanctions. Mais il ne faut pas avoir l'image d'une économie russe complètement dévastée. La Russie, ce n'est pas le Venezuela aujourd'hui, du tout. Et donc, si vous voulez, c'est une économie qui souffre, effectivement, mais qui aussi souffre comme d'autres économies de pays émergents peuvent souffrir. Troisième élément, si vous voulez, sur l'outil militaire russe, ce qui le caractérise, c'est effectivement le fait qu'il fait preuve d'une capacité de projection inattendue, qu'il met en place des nouveaux systèmes d'armes, et notamment des missiles de croisière. C'est la troisième marine seulement dans le monde à pouvoir tirer des missiles de croisière après la marine américaine ou la marine britannique. Et que par ailleurs, c'est un outil militaire qu'on qualifierait de robuste, si vous voulez. C'est pas forcément une armée ultra technologique comme l'armée américaine, mais c'est une armée, à la différence de l'armée chinoise notamment, qui n'a absolument pas peur du contact et d'aller au feu. Il y a la résurgence d'une culture stratégique extrêmement riche et extrêmement profonde. Et ce que la Russie a démontré au cours de ces dernières années, c'est aussi d'élaborer une stratégie globale très difficile à déchiffrer. C'est le concept peut-être impropre de guerre hybride. Mais au fond, ce que l'outil militaire russe est en mesure de faire, si vous voulez, c'est de combiner les registres d'action. C'est d'envoyer des messages nucléaires assez difficiles à décrypter, faire de la, ce qu'on appelle de la persuasion, également de montrer ses capacités conventionnelles ou directement ou indirectement via des contractors, comme les Occidentaux ont pu le faire, avoir une exploitation très fine de la guerre de l'information, c'est-à-dire de jouer sur le système de perception des adversaires avec de la propagande plus ou moins ciblée. Et puis, dernier élément, c'est d'engranger des gains diplomatiques rapidement. C'est-à-dire que ce qui caractérise quand même aujourd'hui la Russie avec son intervention en Syrie, outre sa centralité que j'évoquais, c'est que c'est probablement la politique étrangère la plus agile au Moyen-Orient. C'est celle qui parle encore à tout le monde, à la différence de celle des Occidentaux.
Avant de continuer sur cette question du réarmement, évoquer bien sûr la question de l'OTAN qui est centrale dans tout ça, une question que je vous pose à vous, Thomas Gomard, en historien des relations internationales que vous êtes. Si on devait faire un petit jeu de comparaison, à quelle autre diplomatie, la diplomatie poutinienne, pourrait ressembler ? Pour le dire autrement, est-ce que Poutine vous fait penser à un autre dirigeant soviétique de la deuxième partie du XXe siècle ?
Si votre question, c'est Staline, pas du tout.
Non, j'ai pas dit ça. Ma question, c'était un autre.
Si c'est Khrouchtchev, non plus, non. Je pense que, si vous voulez, ce qui est intéressant dans la politique étrangère de Vladimir Poutine, c'est trois choses. La première, c'est qu'il arrive dans le discours et dans le référentiel à manier l'héritage impérial et l'héritage soviétique. Le deuxième élément, c'est que c'est quelqu'un qui passe son temps à penser politique étrangère et politique de sécurité. C'est-à-dire que ce qu'il caractérise aujourd'hui sur la scène internationale, c'est qu'il est face à des leaders, notamment européens, empêtrés dans leurs problèmes domestiques, alors que lui, au fond, a construit son pouvoir sur la chose militaire et sur la quête de prestige. Et en ce sens, il est, il s'inscrit vraiment dans l'histoire russe. Le problème de Poutine, c'est comment il va être jugé par rapport à l'histoire russe. C'est pas du tout le jugement des Occidentaux ou des autres puissants sur lui. C'est comment il va être jugé par rapport à Pierre, Catherine, Staline et les autres.
Ouais. Bon. Mais est-ce que ça veut dire que la diplomatie poutinienne, finalement, elle ressemble plus à la diplomatie à l'époque de la Russie impériale?
Non, c'est une diplomatie qui, si vous voulez, à mon avis, comprend très bien deux choses. C'est qu'il y a un moment de retrait occidental et qu'il faut l'occuper précisément parce que structurellement, la Russie est faible. Et que l'objectif, c'est de retrouver du prestige international, d'être craint sur la scène internationale et de laver l'affront des années 90. C'est-à-dire que ce que Poutine veut, à mon sens, c'est une forme de victoire symbolique lui permettant de dire au peuple russe « En fait, nous n'avons pas perdu la guerre froide ». Et c'est peut-être là que votre titre initial est excellent.
Céline Maranger.
Oui, je suis assez d'accord avec vous, Thomas Gomard. Il y a une nostalgie de la puissance qui est très prégnante à la fois dans le discours et dans le comportement. Au sujet de la diplomatie russe et de la politique étrangère, je partage aussi votre avis quand vous dites que le président Poutine se préoccupe avant tout de la politique étrangère et que finalement il est assez peu concerné par les problèmes internes. En même temps, je crois qu'il ne faut pas négliger la dimension intérieure de la conduite extérieure de la Russie. C'est-à-dire que la Russie est un pays qui vit sur la rente pétrolière et quand même, enfin, je veux dire, pour échanger avec des Russes régulièrement, je crois que l'effondrement des prix du pétrole et conjugué aux sanctions économiques ont eu des effets dévastateurs sur l'économie russe. Je veux dire qu'il y a une inflation qui est très forte, une dévaluation du rouble et surtout une baisse des revenus de l'État qui entraîne des coupes franches dans le budget, qui entraîne des déficits considérables. Alors jusqu'à présent, pour combler les déficits budgétaires de l'État, ils ont puisé dans les réserves qui avaient été accumulées à la fin, enfin dans les années 2000, lorsque le prix du pétrole était très important. Mais ces réserves viennent à épuisement. Ils envisagent maintenant des privatisations et surtout des coupes très importantes dans les budgets de l'État. Et dans ces conditions difficiles, de plus en plus difficiles, il faut avoir quelque chose à offrir à la population. Et je crois qu'ils ont été eux-mêmes surpris par l'enthousiasme qu'a pu susciter l'annexion de la Crimée en mars 2014. Je veux dire, il y a eu vraiment une euphorie, ils appellent ça l'euphorie criméenne. Et donc, finalement, les interventions extérieures et toute la mise en scène orchestrée autour de ces interventions sert aussi à imposer un nouveau consensus dans la société russe. La légitimité du pouvoir, elle n'est plus fondée aujourd'hui sur la prospérité économique, ce qui était le cas dans les années 2000, c'était tout à fait nouveau pour les Russes. Mais sur des chimères, sur la revanche historique, la nostalgie de la puissance et l'idée d'une confrontation avec les pays occidentaux.
Le retour de la guerre froide, dont Moscou voudrait nous faire croire, en tout cas nous dire qu'elle ne l'a finalement pas perdue. Poutine, la diplomatie du marteau, c'est notre sujet ce matin. On est avec Thomas Gomard et Céline Maranger.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Je vous annonce que les États-Unis vont être leaders dans le renforcement de la présence de l'OTAN en Pologne. Cela signifie que les États-Unis vont déployer un bataillon d'un millier de soldats.
La stabilité de la région euro-atlantique dépend de la sécurité à nos frontières, explique le président polonais Andrzej Duda. Nous devons renforcer la coopération avec tous nos partenaires, à la fois à l'est et au sud. Nous ne sommes pas entourés par des ennemis. Nous sommes entourés par des défis.
Il n'y a aucune raison de développer de telles activités militaires de la part de l'OTAN. Nous pensons que cela ne contribue pas à la sécurité, donc ce n'est pas une question de transparence. Il s'agit de la direction que prend l'OTAN en termes militaires, et c'est une situation vraiment très inquiétante. Les membres de l'Alliance et la Russie ont des désaccords profonds et persistants sur la crise. Mais c'était une occasion importante de clarifier nos positions respectives et d'échanger nos points de vue sur la crise en Ukraine.
Voilà, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, on entendait également le président polonais et puis bien sûr le président américain Barack Obama. C'était à l'issue du sommet de l'OTAN à Varsovie en juillet dernier. Un sommet à l'issue duquel les pays de l'Alliance ont annoncé le renforcement de sa présence sur le front est de l'Europe. Et puis c'était aussi une nouvelle étape dans le fameux bouclier antimissile déployé par l'OTAN en Europe qui raidit considérablement la Russie. Le système devant devenir, je crois, complètement opérationnel d'ici 2020. On va retrouver un nouvel invité, c'est Yves Boyer, bonjour.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à l'École Polytechnique, vous êtes directeur scientifique du Forum du Futur, qui est un centre d'analyse et de prospection relatif aux grands bouleversements internationaux actuels. Est-ce que l'OTAN, Yves Boyer, a eu raison, je vais vous poser la question assez brutalement, a eu raison d'augmenter ses effectifs en Europe de l'Est et de déployer comme ça ce système de défense, qui est un sujet, on le sait, de grande friction pour Moscou, qui considère qu'il produit une véritable rupture dans l'équilibre régional. Yves Boyer, l'OTAN a eu raison ?
Mais si vous voulez... Je pense que l'OTAN a eu raison du point de vue des pays d'Europe centrale et orientale qui ont un vieux contentieux avec les Russes et qui sentent que plus il y aura de soldats américains sur leur sol, plus ils se sentiront rassurés. Est-ce que l'OTAN a eu raison ? En réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que les renforcements dont on parle, c'est des renforcements, j'allais dire, au bout de route, c'est 500 hommes ici, 800 hommes là, ça n'a pas de sens militaire, en réalité, ça a un sens politique, à la fois parce que les pays d'Europe centrale et orientale se sentent, entre guillemets, assurés, et puis ça a un autre sens politique, c'est que les États-Unis réaffirment leur centralité dans la sécurité européenne, à un moment où, d'ailleurs, un certain nombre d'Européens veulent, par eux-mêmes, développer davantage d'autonomie en matière de sécurité et de défense.
Yves Boyer, je vais passer la parole à nos invités ici en plateau, puis on va essayer de vous recontacter parce que la ligne n'est pas très bonne, on va faire mieux, je pense qu'on doit pouvoir faire. Thomas Gomard et Céline Maranger, est-ce que l'OTAN a eu raison de mettre ainsi la pression sur la Russie en montant un peu en puissance à la fois sur les troupes, sur le bouclier antimissile, est-ce qu'elle a eu raison de le faire ?
Bon, ce qu'il Thomas faut Gomard. Voir, c'est que dans le prolongement de l'annexion de la Crimée et la déstabilisation de l'Ukraine, il y a eu simultanément des tests menés par la Russie sur la solidité de l'OTAN, avec notamment des intrusions régulières des espaces aériens, des espaces maritimes, parce que je crois que fondamentalement, ce que je vous disais par rapport à la victoire symbolique sur la guerre froide, le fantasme ultime de Vladimir Poutine, ce serait de montrer l'inanité de l'article 5, c'est-à-dire d'essayer de démontrer d'une manière ou d'une autre que l'article 5, qui est l'assurance que les alliés de l'OTAN se donne de se défendre les uns les autres, en réalité n'est pas aussi fort que l'OTAN le prétend. Et il y a plusieurs manières de le faire. C'est pas forcément une grande confrontation. Ça peut être par des moyens très très indirects.
Lesquels ?
Vous créez.
Comment remettre en cause ce principe de solidarité
Vous créez par exemple une situation très difficile à décrypter en termes d'attaques cyber, de forces spéciales, d'actions d'action des services de renseignement sur un pays balte pendant 2-3 jours. Et donc, la conclusion à laquelle peuvent arriver ces pays-là, c'est que la garantie de l'OTAN n'est pas si forte que ce qu'on leur a promis lorsqu'ils ont rejoint l'OTAN. Donc, ce point-là, si vous voulez, est important. Et en même temps, c'est vrai que les mesures dites de réassurance prises lors du sommet de Varsovie sont en effet limitées et très dosées. C'est-à-dire que ces quatre bataillons qui sont encadrés par des nations cadres, États-Unis, Canada, Allemagne, UK, enfin Grande-Bretagne, et qui ont pour vocation à rassurer, au fond, les nouveaux membres de l'OTAN. Le vrai sujet, c'est le système antimissile, en réalité. C'est davantage ça. C'est-à-dire, quelle est la pertinence d'un système antimissile qui, au départ, a été élaboré pour se prémunir contre une menace balistique iranienne et qui est en train de changer de nature. Et il y a donc une part de l'argumentaire russe qui, à mon sens, est parfaitement recevable sur le caractère anti-russe, fondamentalement, de ce système antimissile, en dépit de ce qui a pu être dit. Dernier élément très important par rapport à l'OTAN, c'est qu'on regarde beaucoup ça du côté des pays baltes, ou des pays neutres comme la Suède et la Finlande, qui sont en train de relever leur posture de défense par rapport à une agressivité nouvelle de la Russie. Mais le vrai sujet, c'est la Turquie, en réalité. C'est-à-dire que la Turquie est membre de l'OTAN et elle vient de faire une sorte de retournement extrêmement rapide de sa position vis-à-vis de Moscou. Rappelez-vous, en décembre 2015, on est au bord de l'affrontement entre Ankara et Moscou à cause de l'avion russe abattu par les forces turques. Et après le coup d'État contre Erdogan, alors on va pas gloser sur ce coup d'État, un rapprochement extrêmement spectaculaire avec Vladimir Poutine. Et au fond, un discours d'Erdogan de plus en plus critique, voire d'une certaine manière reprenant des arguments russes à l'encontre des pays européens et des États-Unis. Pour dire les choses rapidement, je pense que le point de vulnérabilité de l'OTAN vis-à-vis de la Russie aujourd'hui, c'est beaucoup plus la Turquie que les pays baltes.
Et pourtant, c'est dans les pays baltes, justement, qu'on déploie, alors je crois que ça fait jusqu'à 4000 militaires qui vont être déployés par rotation dans les trois pays baltes, mais aussi du côté de la Pologne, Céline Maranger, sur cette montée en puissance, donc ces soldats, mais aussi ce système antimissile dont Thomas Gomard nous dit qu'il comprend finalement qu'il pose problème à la Russie. Céline Maranger, puis on retrouvera Yves Boyer ensuite. Céline Maranger.
Oui, moi je voudrais juste essayer de vous montrer qu'en fait, je crois que les Russes pensent que les formes de conflictualité ont évolué et que il faut penser la guerre différemment. Ils insistent beaucoup, le général d'armée Valéry Gerasimov, qui est le chef d'état-major des forces d'armée russes et qui est aussi premier vice-ministre de la Défense, s'en est expliqué peu après sa nomination. Si vous voulez, pour eux, on assiste actuellement à un effacement de la distinction entre l'état de guerre et l'état de paix, et à un effacement également de la distinction entre les actions offensives et les actions défensives. Et finalement, il pense la confrontation, enfin, il se voit aussi peut-être pas en état de guerre avec l'OTAN, mais de guerre non dite, enfin, non avouée. Ce sur quoi ils insistent également énormément, et peut-être qu'on pourrait en discuter ensuite, c'est que dans ce cadre-là, l'influence à distance, l'influence est un moyen d'atteindre en fait des objectifs de combat. Et donc on utilise de plus en plus des moyens non militaires pour atteindre des objectifs stratégiques, des buts stratégiques. Et donc ils ont développé toute une gamme d'actions asymétriques, ce qu'on appelle des actions asymétriques. Et il est très délicat pour l'OTAN d'y répondre, de trouver une manière d'y répondre de manière adéquate. Je pense par exemple à l'utilisation des cyberattaques. Les États-Unis s'y sont heurtés tout récemment. Les cyberattaques contre le Parti démocrate, est-ce que ça constitue une attaque contre la sécurité nationale?
On va retrouver tout de suite Yves Boyer par téléphone et peut-être relancer sur cette question de la dissymétrie. Parce que c'est vrai que, revenons encore en arrière, puisqu'on s'interroge sur cette idée d'un retour ou pas de la guerre froide, même si on a vu très rapidement qu'il y avait des limites à tout ça. Mais à l'époque de la guerre froide, on avait d'un côté l'OTAN et puis de l'autre le pacte de Varsovie. Donc là aussi, un système d'alliance qui faisait bloc et qui pouvait peut-être constituer une entité de taille d'une certaine manière. pour s'opposer à l'OTAN. Il y avait un certain équilibre, même si peut-être qu'on peut revoir les choses, mais il y avait peut-être plus d'équilibre qu'aujourd'hui. C'est peut-être l'une des raisons, au fond, des tensions qui existent aujourd'hui entre la Russie et l'OTAN, qui sont peut-être, rappelons-le, qui est une entité qui est assez largement dirigée, conduite par les États-Unis. Est-ce que c'est pas cette dissymétrie aussi qui pose problème, Yves Boyer?
Oui, enfin, je suis pas certain d'ailleurs que la référence à la guerre froide s'impose vraiment, parce que cette dissymétrie, elle voudrait dire que il y a une espèce de dissymétrie en termes de puissance, où les Russes seraient complètement affaiblis par rapport à l'OTAN qui est hyper puissante, et les Russes deviennent agressifs puisqu'ils se sentent en état d'infériorité. Moi, je pense qu'il y a aussi des réalités technologiques extrêmement puissantes, des dynamiques technologiques qui font que que de part et d'autre, on a des moyens de se tester, de s'évaluer, et que ces moyens mis en œuvre créent de la tension entre les Russes et les Américains, parce que on a évoqué les vols russes en périphérie de l'Europe, avec parfois le franchissement de frontières aériennes, mais on sous-estime ou on méconnaît, si vous voulez, l'extraordinaire pression que les Américains en particulier exercent aux frontières de la Russie. Ça, c'est quelque chose qui est passé sous silence.
Précisez votre propos, Yves Boyer.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a en permanence à la fois des sous-marins nucléaires d'attaque qui vont tester les défenses maritimes russes, et vous avez en permanence des avions qu'on appelle les Rivet Joint, les RC-135, qui frôlent la frontière russe, aussi bien en Europe, aussi bien dans l'Arctique, et aussi bien en mer de Kotsk, qui vont tester les moyens de défense russes, y compris en éteignant leur transpondeur. Donc, si vous voulez, de part et d'autre, on joue un jeu un petit peu dangereux, dans la mesure où, à un moment donné, les Russes pourront prendre comme un acte agressif un vol américain, et là, il peut y avoir des enchaînements qui pourraient être extrêmement dommageables à la sécurité. Donc, si vous voulez, de part et d'autre, il y a ce jeu où on teste l'autre, on écoute l'autre, on va le provoquer, et les Russes qui sont en état d'infériorité technologique par rapport à l'Occident, par rapport aux Américains, j'allais dire, se sentent entre guillemets agressés. Alors, c'est pas, je veux pas dire par là que leur politique est une politique qui n'est pas agressive, mais en termes technologiques et en termes militaires, il y a un tel déséquilibre que eux peuvent se sentir agressés. Ils peuvent se sentir également menacés. C'est quelque chose qui nous paraît aberrant, mais qu'il y ait des troupes américaines en Lettonie, c'est pas grand chose, c'est quelques centaines d'hommes. Mais la Lettonie, c'est à 150 km de Saint-Pétersbourg. Et donc, chez les Russes, ça recrée l'espèce de vieux réflexe Saint-Pétersbourg-Léningrad, le siège de Léningrad. Et ils voient ça d'une façon certes déformée, mais d'une façon qui, pour eux, est extrêmement anxiogène.
Réaction, Thomas Gomard, je vous ai vu lever le doigt, je vous en prie.
Au cœur de la culture stratégique russe, soviétique, impériale, il y a la notion de défense, c'est-à-dire, et de glacis protecteur. C'est-à-dire que c'est fondamentalement une posture défensive. Il faut se prémunir contre ce qui vient de l'Ouest par un système de glacis, au centre duquel d'ailleurs se trouve l'Ukraine. Donc, si vous voulez, dans le discours stratégique russe, l'OTAN a toujours été, enfin depuis la guerre froide et même dans la période post-guerre froide, a été vu comme l'ennemi principal, celui justifiant l'organisation du pouvoir. Le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est que je pense qu'il y a une bonne part de mimétisme dans le comportement de la Russie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce sentiment d'être agressé par les États-Unis depuis la chute de l'URSS. Et il y a également un comportement qui est proche de celui des Occidentaux, c'est-à-dire de la même manière que les Occidentaux ont fait usage de la force contre des États souverains au cours des 10 dernières années, que ce soit les Britanniques et les Américains en Irak, que ce soit les Français et les Britanniques en Libye, la Russie a fait la même chose, au fond, avec la Géorgie et l'Ukraine. Alors, d'une certaine manière, le seul pays membre permanent du Conseil de sécurité qui n'ait pas fait usage de la force contre un État souverain au cours des dernières années, c'est la Chine. Mais en réalité, le comportement stratégique de la Russie est une sorte de réponse, je dirais coup par coup, avec les moyens dont il dispose, qui sont asymétriques, au comportement occidental et en particulier au sujet des États-Unis. Et dernier point, le vrai problème, c'est un problème d'asymétrie, je dirais, d'intérêt ou d'intention. C'est-à-dire que l'obsession de la diplomatie russe, ça a toujours été Washington. Alors que pour Washington, la Russie est devenue, en particulier sous Obama, un sujet sujet, je dirais, de rang 3. C'est-à-dire que c'était un sujet qui ne méritait pas une attention particulière.
Toute dernière question à vous, Céline Maranger. J'en profite pour remercier Yves Boyer sur cette question de l'OTAN. Parce que l'un des problèmes, finalement, de l'OTAN, de ce que ça produit, c'est qu'elle annihile, entre autres, les velléités en matière d'émergence d'Europe de la défense. Plus il y a d'OTAN, d'une certaine manière, et moins il y a d'Europe de la défense. Et on sait que dans le contexte actuel, avec une sécurité qui est régulièrement menacée, avec des États-Unis qui sont régulièrement de plus en plus en retrait, même si ça pourrait changer dans les mois qui viennent, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate, on sent que c'est aussi un besoin et l'Europe s'en rend compte. Est-ce que vous pensez que l'Europe aurait d'autres relations avec la Russie si elle n'était pas dans l'OTAN? C'est un peu idiot comme hypothèse, mais posons-la autrement. Pour le dire autrement, est-ce que l'hypothèse où on aurait une Europe de la défense forte, est-ce que ça pourrait produire une nouvelle forme de relation avec Moscou?
C'est-à-dire que, en fait, pour l'instant, c'est l'OTAN qui assure la sécurité de l'Union européenne. La PSDC, bien sûr, c'est-à-dire la politique européenne de défense, elle a été adoptée par le traité de Lisbonne, mais je veux pas dire que c'est un vœu pieux, mais en tout cas, elle peine à se mettre en forme. Et dans l'interlude, on a d'autres solutions que de s'appuyer sur l'OTAN. Même si la PSDC se renforçait, il y a eu des initiatives récemment en ce sens. L'idée, par exemple, de créer une armée européenne à refait surface après les événements en Ukraine.
C'est une marrante. Mais répondez à cette question. Est-ce que si nous avions une vraie Europe de la défense, nous aurions une autre relation avec Moscou?
Mais encore une fois, si nous avions une vraie Europe de la défense, les pays membres de l'Union européenne, qui sont également membres de l'OTAN, resteraient dans l'OTAN. Ne sortirait pas de l'OTAN pour autant.
Thomas Gomard.
Votre question, c'est en fait le cœur de la diplomatie russe qui, à l'époque soviétique comme à l'époque aujourd'hui, veut rompre le lien transatlantique. Oui. Voilà, ça c'est la ligne rouge au fond de la politique étrangère de la Russie, c'est ça. Et en même temps, votre question correspond à une vision assez française d'une Europe puissance dont peut-être Paris, Bruxelles au sens de la Belgique partagent l'ambition, mais qui n'est pas partagée par les autres pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN.
Allez, on parle de la guerre froide. Pendant la guerre froide, il y avait un endroit, évidemment, où tout cela se jouait, c'était le domaine spatial. Depuis le lancement du premier satellite artificiel Sputnik en 1957, une victoire soviétique donc, jusqu'à l'échec de l'URSS lors du programme lunaire en 1969, la conquête spatiale, c'était un enjeu diplomatique central, une démonstration de puissance et un témoignage de l'avancée technologique des deux grandes puissances soviétiques et américaines. Qu'en est-il aujourd'hui? On va retrouver justement Isabelle Sorbès-Verger, qui est géographe, qui est chercheuse au CNRS et spécialiste des politiques spatiales. Écoutez.
Le programme spatial dans tous les pays représente un enjeu de puissance, à la fois parce que, je dirais, il y a une forte valeur médiatique et de démonstration vis-à-vis de l'opinion internationale comme vis-à-vis de son opinion nationale. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que le spatial fait quand même partie du domaine des nouvelles technologies et des hautes technologies et de l'innovation et que donc, à ce titre, tous les États sont intéressés par le développement de leur puissance spatiale. Mais le point important, c'est qu'il faut toujours mesurer que le développement d'un programme prend à minima une dizaine d'années, même si aux États-Unis aujourd'hui on fait des programmes plus courts. Et donc ce que vous voyez au moment où vous l'interprétez doit être replacé dans le contexte qui a été celui de la prise de décision. Et de fait, la volonté de développer l'activité spatiale en Russie date des années 2000, a été soutenue à partir de 2006 par Medvedev dans le contexte de la modernisation globale de l'économie et continue à être développée par Vladimir Poutine, à la fois dans le domaine de la modernisation industrielle et aussi dans l'affirmation du rôle de la Russie sur la scène internationale, mais aussi concernant le développement national, puisque le spatial est également un élément qui permet, via les applications comme les télécommunications ou la télédétection, d'aider au développement global du pays.
Dans les années 2009, dans une localité au sud de Moscou, à Skolkovo, le président russe Medvedev a voulu lancer une nouvelle technopole sur le modèle de la Silicon Valley aux États-Unis pour promouvoir le développement de clusters économiques. L'objectif était alors de créer un centre d'innovation technologique. Est-ce que cette initiative a fonctionné ?
C'est en cours. La difficulté pour le spatial russe, mais pas seulement dans le domaine spatial, si vous voulez, c'est la création de nouvelles entreprises. Le spatial est souvent fait par des entreprises d'État, hein, qui sont des entreprises qui ont un passé fort de bureaucratie malgré tout, qui sont des grosses entreprises. Et Skolkovo et tous les programmes d'innovation, ça supposerait quelque chose de beaucoup plus flexible avec des investissements bancaires qui soient beaucoup plus souples que ne le permet le système russe. Mais il y a un certain nombre d'avancées, en particulier vous avez des sociétés commerciales qui envisagent de faire des petits lanceurs ou des petits satellites. C'est pas le cœur du programme spatial, il n'est pas encore, je dirais, révolutionné, il est très loin de l'écosystème américain, mais progressivement, il se rénove et on voit une nouvelle industrie spatiale qui apparaît. Et par exemple, vous avez eu une restructuration de l'ensemble du secteur administratif et d'entreprise avec une remise en perspective des différentes entreprises du spatial de manière à éviter les doublons et essayer de rendre le secteur plus rentable.
Et est-ce que les sanctions à l'égard de la Russie ont une influence sur ce secteur ?
Ce qui est déjà amusant, c'est que dans la mesure où les États-Unis et tous les partenaires de la Station spatiale internationale dépendent encore aujourd'hui pour l'aller et le retour des cosmonautes à bord de la station, il n'y a que la Russie qui est capable d'assurer aujourd'hui ces transports. Vous remarquerez que les sanctions n'ont pas été appliquées au domaine spatial. Donc là, si vous voulez, la Russie, elle a joué le jeu et elle n'a pas du tout durci sa position et elle a considéré que c'était dans son intérêt que de rester un partenaire fiable en continuant à assurer cette partie qui est vraiment indispensable à la vie de la station aujourd'hui. Alors après, le Congrès américain a demandé aux entreprises, par exemple, pour les lanceurs américains utilisent des moteurs russes. C'est vrai que le Congrès demande à ces entreprises de cesser à terme d'acheter des moteurs russes et d'utiliser désormais des moteurs fabriqués aux États-Unis. Mais là encore, il n'y a pas eu de sanctions et le mouvement se poursuit.
Isabelle Sourbès, verger, géographe, chercheuse au CNRS, spécialiste des politiques spatiales qui était au micro de Samuel Bernard, Thomas Gomard. On voit, le spatial, c'est un enjeu de puissance pour Poutine, mais comme le reste d'ailleurs.
Voilà, c'est un attribut parmi d'autres et ce qui était effectivement très bien expliqué, c'est le fait que ce sont des cycles longs et que les décisions prises au début des années 2000 portent leurs fruits aujourd'hui. Et ça conduit à faire une observation peut-être plus large dans laquelle s'inscrit le programme spatial, c'est que la Russie a mis en place tout un dispositif de, non pas de sécurité numérique, comme on utilise souvent ce terme chez nous, mais de sécurité informationnelle, c'est-à-dire qu'il y a eu la prise de conscience très tôt qu'il fallait pouvoir disposer sur Internet de capacités autonomes et qui ne passent pas par le truchement des plateformes pour aller vite américaines. Mmh. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été lancé au début des années 2000 et qui porte ses fruits et qui aboutit au fond à une situation où la Russie veut disposer de ses propres flux d'informations.
Eh bien écoutez, ça tombe très bien parce que figurez-vous que c'est notre sujet de demain, la guerre de l'information. Vous voyez, les choses sont bien faites. Hein. Merci beaucoup Thomas Gomard et Céline Maranger de nous avoir accompagnés ce matin. On peut bien sûr retrouver nos discussions sur le site internet de France Culture. Mais avant de se quitter, c'est comme chaque jour, Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Pour ne pas être très éloigné finalement des discussions qu'on avait il y a un instant, puisqu'on va parler de la diplomatie américaine en Syrie, est-ce que le désastre syrien restera au passif d'Obama comme sa pire erreur en 8 ans de présidence, Brice ?
Eh bien, c'est cette question qui a été lancée en août dernier par l'un des éditorialistes les plus en vue des États-Unis, Nicholas Kristof, dans une tribune publiée par le New York Times. Cela a été d'autant plus remarqué que Kristof, qui est situé à gauche, a été un supporter d'Obama. Or, il écrivait « Les souffrances de la population civile syrienne laisseront une ombre sur le bilan de cette présidence. » Et Roger Cohen, du Times, de surenchérir quelques jours plus tard « Oui, la Syrie a bien été la pire erreur d'Obama. » Cet échec est désormais un visage, ajoutait-il, celui de ce petit garçon couvert de sang et de poussière, Omran Dakhnish, qu'on extrait des gravats d'Alep continuellement bombardés par l'aviation russe, sans que les États-Unis ne tentent quoi que ce soit pour en dissuader Poutine. Selon l'UNICEF, 3 700 000 enfants sont nés en Syrie depuis le déclenchement de la guerre civile. Ils n'auront connu pour toute enfance que la misère, la fuite au milieu des miliciens en armes et des bombardements, l'incertitude du lendemain, le manque de tout. Alors les États-Unis sont-ils coupables par abstention? Doit-on faire figurer au passif du bilan d'Obama un abandon de peuple en danger? C'est une question qui est beaucoup discutée en ce moment aux États-Unis. Je vous propose donc de l'aborder cette semaine et de voir quelles sont les options demeurant disponibles pour le ou la nouvel élu qui sortira des élections du 8 novembre.
Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher exactement à Barack Obama, Brice?
Sa réticence à intervenir à temps dans le conflit syrien, c'est-à-dire dès le début. Elle aurait favorisé l'escalade et le remplacement progressif d'une opposition relativement démocratique et modérée par des islamistes fanatiques. Telle est l'une des idées les plus couramment entendues en ce moment aux États-Unis. Elle est particulièrement bien développée par la politologue Tamara Kaufman-Wittes de la Fondation Brookings. Dans le rapport qu'elle a lu devant les membres de la Commission des Affaires étrangères du Sénat en juin dernier, elle a rendu cette retenue responsable de l'exacerbation du conflit. Le fanatisme religieux, leur a-t-elle dit, est désormais profondément inscrit dans les lignes de front. Les forces les plus extrémistes ont profité de cette radicalisation pour évincer celles qui étaient susceptibles de dialoguer entre elles. L'abstention des Américains a créé un appel d'air dans lequel se sont engouffrés les voisins de la Syrie. Cette thèse est très bien développée, je le signale, par Rana Marcel Khalaf du think tank britannique Chatham House. À présent, les acteurs étrangers impliqués dans le conflit syrien sont trop nombreux pour que Washington puisse s'entendre sur une issue acceptable par chacun d'entre eux. Résultat, la plupart des options qui étaient disponibles en 2012 ne le sont plus aujourd'hui. Obama va transmettre à la prochaine administration une situation pourrie. C'est qu'Obama avait misé sur des éventualités qui se sont toutes révélées improbables. Il a d'abord escompté que Bachar al-Assad allait être chassé rapidement du pouvoir à la manière dont l'ont été Moubarak, Ben Ali, Kadhafi. Détrompé, il a imaginé par la suite qu'on pouvait favoriser un accord entre Bachar et les forces de l'opposition. Mais près d'un demi-million de morts se dressent dorénavant entre le régime de Damas et le reste de la population syrienne. Trop de haines ont été accumulées. Imaginer une réconciliation générale est illusoire. Autre illusion entretenue par l'administration Obama dans la suite du conflit, croire que le conflit allait s'éteindre de lui-même par simple épuisement des combattants. Ce qui a mis un terme à la guerre de Bosnie dans les années 90, ce n'est pas la fatigue des antagonistes, mais bien l'implication militaire des Américains dans le cadre de l'OTAN. Miser sur un cessez-le-feu, comme l'a fait Obama en septembre, est absurde. Ces cessez-le-feu constituent autant d'occasions pour Assad et ses alliés russes et iraniens de consolider leur emprise sur les territoires conquis en attendant la prochaine offensive. Mais les Russes aussi entretiennent des illusions, selon Tamara Kaufman-Wittes. Redoutant un éclatement du pays selon des lignes de clivage confessionnel, ils tiennent pour essentiel le maintien de l'unité nationale de la Syrie et de l'autorité de Damas sur l'ensemble du pays. Or, pour la majorité des Syriens aujourd'hui, le gouvernement de Bachar est un ramassis de tortionnaires et d'assassins dont l'autorité ne sera jamais acceptée. Et les Syriens se moquent bien que les États-Unis se résignent ou non à la présence de ce criminel de guerre à Damas dans le cadre d'un accord bien improbable lui-même avec la Russie. Les milices locales qui se partagent le territoire de la Syrie ne rendront pas les armes. Elles se considèrent comme responsables des populations qu'elles contrôlent et auxquelles elles délivrent une partie de ce qui subsiste de services publics en Syrie. C'est pourquoi, conclut Wittes toujours elle, il y a urgence à persuader les Russes qu'un niveau important d'autonomie locale est inévitable dans la Syrie d'après-guerre et ce sont ces acteurs locaux qui auront précisément la charge de mettre en œuvre de futurs accords de paix et puis les plans de reconstruction d'un pays dévasté. Mais ça, c'est pour l'avenir.
Merci beaucoup Brice Couturier pour votre chronique. Thomas Gomard, un mot peut-être de réaction sur cette politique américaine en Syrie?
Moi, je suis toujours un peu gêné par les raisonnements consistant à dire si Obama avait fait ceci ou si Obama avait fait cela. Le fait est qu'il n'est pas intervenu. Donc, on peut passer beaucoup d'années à le regretter. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout préparer l'arrivée de la prochaine administration américaine et avec, au fond, des scénarios. Qu'est-ce qui va se passer si c'est Trump et qu'est-ce qui va se passer si c'est Clinton? Si vous voulez, le fait de dire en 2013, il n'est pas intervenu, c'est probablement un argument très utilisé par la diplomatie française pour justifier la lecture qu'elle a pu avoir de la situation à ce moment-là. Mais on ne refait pas l'histoire. Et donc aujourd'hui, le vrai sujet politique, c'est davantage quand on est en Europe et en France en particulier. particulier, d'essayer d'anticiper les décisions, à la fois la prochaine administration américaine et les réactions que ça suscitera à Moscou et à Téhéran.
Merci beaucoup. Nous verrons bien sûr dans les mois qui viennent ce que le changement d'administration pourrait produire dans ce dossier syrien. Merci beaucoup à vous, Thomas Gomard. Un grand merci également à vous, Céline Maranger. Dans quelques instants, sur France Culture, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.